toute la tendresse de mon cœur. C'est le spectacle que propose ce samedi à 17h30 le château de Bussy-Rabutin. Il s'agit de commémorer, de fêter le 4e centenaire de la naissance de Madame de Sévigné, cousine de Roger de Bussy-Rabutin, seigneur des lieux, faut-il le rappeler. Un spectacle dont vous avez eu l'idée, Jeanne Jourquet, vous êtes claveciniste et un peu plus que ça. Et voici quelques temps maintenant et que vous proposez là quasiment en situation.
Oui, alors l'idée est née plus ou moins par hasard durant les longues semaines du confinement où j'ai eu envie de mettre en valeur ce répertoire du XVIIe siècle pour le clavecin que j'aime tant et qui est pourtant parfois difficile d'accès pour un public non averti. Et la rencontre avec Sévigné s'est faite par hasard. J'ai vu là une occasion de faire dialoguer un texte de l'époque, mais pourtant très vivant et qui sonne très contemporain, avec cette musique pour clavecin. Et j'ai ensuite rencontré Ariane, qui a accepté de rejoindre l'aventure au fil de nombreuses séances de travail, d'une résidence à l'abbaye de Royaumont. Nous avons pu travailler sur la trame du spectacle. Nous avons finalement monté ce concert, lecture, spectacle autour de Madame de Sévigné et du clavecin de son temps.
Alors, Denis Sartel, je me suis permis de présenter Jeanne Jourquet comme claveciniste. Mais alors, pour vous, c'est plus compliqué parce que vous êtes finalement à la frontière, s'il y en a une, du monde de la littérature et du monde de la musique.
Oui, c'est vrai. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que on s'est bien entendu avec Jeanne et que le partenariat a semblé évident parce qu'effectivement, j'ai à la fois un goût pour Madame de Sévigné et pour la littérature en général. Ce sont mes études en partie. J'ai fait des études de littérature assez longues, une thèse, littérature comparée, etc. J'ai un grand amour du texte. Et par ailleurs, maintenant, mon travail principal se situe dans le théâtre, mais aussi le théâtre musical. Je suis aussi violoncelliste, donc musicienne et chanteuse. Donc, mon travail est un peu à l'intersection de ces trois pôles, on va dire, entre la littérature, la mise en scène et la musique. Donc là, c'était un terrain de jeu assez rêvé de travailler avec Jeanne sur ce projet. Au départ, je devais seulement être dramaturge, metteur en scène et qu'on réfléchisse ensemble à l'agencement un peu des textes. Et puis, notre amitié et le projet avançant, il a semblé assez évident que je prenne aussi la partie de jeu de ce projet. Donc, je me suis retrouvée comédienne aussi sur ce projet.
Et pour apporter une note supplémentaire au portrait musical, vous vous intéressez autant à l'univers des musiciens du XVIIe siècle qu'à la musique plus récente. Je pense à l'enfant des sortilèges, par exemple.
Tout à fait. C'est vrai que je me retrouve confrontée à plusieurs domaines, on va dire, où la musique et le théâtre se mêlent. Et on me demande aussi bien de travailler avec des ensembles musicaux un peu de tout style, soit des ensembles baroques ou des ensembles plus contemporains pour faire de la mise en scène, et aussi bien des répertoires plus anciens et plus nouveaux, etc. Comme mon travail, le théâtre est un genre assez, on va dire, hybride et malléable et flexible, et donc il s'adapte aussi à plein de lieux, et c'est aussi mon plaisir de naviguer un peu entre ces différents univers. Mais on va dire que je ne suis pas une pure baroqueuse, j'apprends.
Jeanne Jourquet, Ariane lira certains textes, dira certains textes, les deux mots ont leur importance. Pour autant, il ne s'agit pas d'un concert lecture.
Non, du tout. Alors, l'idée de départ était quand même plus ou moins celle-ci, mais en fait, le texte est tellement porteur et tellement fort et riche qui nous a vraiment amené beaucoup plus loin que ce qu'on avait d'abord imaginé. D'abord était un dialogue entre la musique et une lecture simple, finalement, est devenue vraiment une incarnation, puisque Ariane, au fil de la lecture de ses textes et du spectacle, finit par entrer d'une certaine manière dans le personnage, dans vraiment la peau de cette marquise du XVIIe siècle et vraiment de la faire vivre. Et c'est finalement voilà, un trajet que nous n'avions pas imaginé qui s'est imposé à nous. Et la musique vraiment tient lieu de décor, mais aussi de pensée, de... Elle vient là aussi pour peut-être faire parler la fille de Madame de Sévigné dont nous n'avons plus les lettres.
Puisque vous serez au château de Bussière-à-Butin, occasion peut-être de souligner que Bussière-à-Butin, Roger de Bussière-à-Butin, le comte, parle très peu de musique, quasiment pas. Ça n'est pas du tout le cas de sa cousine.
Quand je me suis, moi, lancée dans la lecture des plus de 1000 lettres de Madame de Sévigné, je ne savais pas ce que j'allais y trouver. Notamment du point de vue musical, mais j'ai été très heureuse de voir qu'elle en parlait beaucoup. Alors, ça n'est pas non plus le centre de sa vie, mais c'est vraiment quelque chose de quotidien. Et donc, elle assiste à toutes ces grandes premières des opéras de l'époque de Lully, mais d'ailleurs aussi les grandes premières des pièces de théâtre de Racine, de Corneille. Elle côtoie La Fontaine et tous ces grands artistes du XVIIe siècle. Et donc, elle est vraiment un témoin privilégié de l'art qui se développe à la cour de Louis XIV.
Madame de Sévigné décrit aussi un petit peu le monde de la cour. Elle décrit aussi quelques anecdotes un peu salées, certains épisodes un peu cinématographiques de la vie de la cour.
Ouais, mais c'est rien à côté de l'histoire amoureuse des Gaules d'un Bussière à Butin.
J'imagine bien. Mais c'est vrai que Madame de Sévigné, dans sa correspondance, et Jeanne, tu me diras si tu as le même sentiment, ramène en fait beaucoup plus à l'intime. Elle s'est assez éloignée de la cour assez rapidement en fait, et elle a beaucoup vécu dans son domaine en Bretagne où elle était assez seule. Et elle contemple tout cela avec un peu de distance déjà. Et elle a une sorte de distance un peu ironique. Elle dit qu'elle aime beaucoup à faire des réflexions sur les choses, par exemple. Et autant son avis, je pense, était extrêmement prisé par les gens de son époque et elle était reconnue comme une femme de tête, une femme de lettres et de réflexion. Et en même temps, sa distance lui permettait aussi cette liberté-là. Elle parle beaucoup, elle, pour le coup, plutôt dans un lien avec la nature, avec les saisons, avec son rapport à la piété, son rapport au manque avec sa fille, tout ça, toutes ces choses-là qui sont dans les lettres et qui racontent quelque chose d'une intimité qui est extrêmement rare, en fait, que c'est un document en fait extrêmement rare et précieux pour le XVIIe, parce que ce n'est pas une période où les gens s'épanchent volontiers sur leurs sentiments intimes, au contraire même. Il est plutôt de coutume d'ironiser sur les affres du cœur et de dire et de s'en montrer assez distant et de se moquer de soi-même. Et Madame de Sévigné ne le fait pas tant que ça. En fait, elle est vraiment dans une sorte de d'épanchement très très sincère, très très honnête par rapport à tout ce qu'elle traverse sentimentalement, etc. Et c'est un document très très rare et très très précieux pour cette, on va dire, cet esprit du XVIIe.
Jeanne Jourquin, revenons à la musique. Quelle place occupe-t-elle véritablement dans les préoccupations de Madame de Sévigné ?
La musique, pour elle, était quelque chose d'assez quotidien. Elle pratiquait, mais de manière vraiment amateur. On sait qu'elle chantait, elle cite plusieurs airs dont, voilà, qu'elle travaille à la maison, mais vraiment pour son plaisir. Notamment un petit air de Lully qu'on joue dans le spectacle, que j'ai arrangé pour le clavecin, puisqu'au départ, c'est un air chanté.
Elle assiste aux opéras, notamment à certains opéras de Lully.
Et elle les décrit avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Elle raconte avec autant d'émotion et de précision ses grandes premières à la cour, mais aussi les paysannes qui dansent dans les bourgs et les villages bretons. Et ça, c'est aussi quelque chose de très précieux comme témoignage, puisque donc elle délivre vraiment un portrait de la vie musicale de l'époque au XVIIe siècle.
Je ne joue qu'à sans entrer évidemment dans le détail des pièces, elles sont nombreuses. Quel compositeur pourra-t-on entendre comme présenté, comme faisant partie finalement un petit peu de l'univers qu'a pu côtoyer Madame de Sévigné? Je suppose que c'est ce qui vous a guidé. On a parlé de Lully, on pourrait parler peut-être aussi de Couperin, alors peut-être plus Louis que François, d'Anglebert, de Champmanière et d'autres.
Oui, c'est ça, vous les avez cités. Lully donc, n'a pas écrit pour le clavecin seul, mais d'Anglebert, qui est donc un de ses contemporains clavecinistes, a eu l'excellente idée de reprendre les plus grands airs de Lully et de les adapter au clavecin. Donc nous avons de très nombreuses pièces qui sont issues des opéras de Lully, ce qui témoigne aussi d'ailleurs du succès de ces opéras à l'époque. Champmanière est aussi également très présent dans le programme du spectacle. C'est un compositeur pour clavecin vraiment peut-être un petit peu plus confidentiel, mais qui a son importance dans l'histoire du clavecin. Louis Couperin également, François plutôt non, puisqu'il est plus tardif et plutôt sur le XVIIIe siècle. On a vraiment essayé d'être au plus proche de ce qu'elle avait pu vivre, connaître, entendre. Donc certaines des pièces sont réellement citées dans les lettres, d'autres non, mais ce sont des suppositions, des idées de choses qu'elle aurait pu entendre.
Toute la tendresse de mon cœur, c'est au château de Bussy-Rabutin, ce samedi à 17h30 dans les communs du château. Une parenthèse, jeune Jourquin, pour ponctuer notre conversation, je me suis permis d'extraire certains titres issus d'un album que vous avez publié avec Évidence Classique il y a 2 ans maintenant. Alors là, c'est plutôt François Couperin.
Un disque que j'ai enregistré avec Héloïse Gaillard et Eleanor Lewis, respectivement flûtiste à bec, oboïste et violiste. C'est un programme qui s'appelle Jeu de dames et qui dépeint un portrait de l'amour au XVIIIe siècle et dont François Couperin est le compositeur principal.
Et on s'écarte là un tout petit peu de Madame de Sévigné, que l'on retrouvera donc ce samedi au château de Bussy-Rabutin. C'est en Côte d'Or, c'est à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Dijon.